monde, il ne veut pas payer les prix des personnes. C'est ça, on est là.
Ils ne veulent pas payer les salaires, c'est ça?
Les prix. Ils ne veulent pas payer les prix, comme on est des esclaves. C'est ça.
Vous travaillez ici depuis longtemps?
Ouais, je travaille ça ici depuis longtemps. Ça fait 10 ans que je suis là.
Et vous êtes gréviste aujourd'hui?
Oui, oui.
C'est comment votre prénom?
C'est Blandine.
Blandine?
Ouais. On est dehors à cause de deux mutations. Moi, avec mes collègues Charlie, la nouvelle société, comme il est venu pour casser des équipes.
Le nouveau sous-traitant, hein, Emera. Ouais,
ouais, Emera, c'est Emera. C'est Emera, il est venu pour casser des équipes. C'est ça, on ne veut pas ça. Le problème là, gouverneur général, il n'est pas bon.
Le gouverneur?
Gouvernante générale.
Ah, la gouvernante générale,
oui,
c'est une femme.
Oui, une femme. Il donne tout le monde les noms de bêtes, ce n'est pas bon.
Nous sommes le 8 mars et la justice pour les femmes signifie la justice pour tous. Par exemple, pour ces femmes de ménage en lutte en janvier 2018 pour leur droit à un travail digne et dignement rémunéré. Que poursuivrait un féminisme qui ne chercherait pas à transformer le monde en profondeur et à lutter contre tous les rapports de domination? C'est un sursaut d'histoire et un combat multidimensionnel que vous appelez, Françoise Vergès, dans votre dernier livre. Ce manifeste pour un féminisme décolonial ne décrit pas une nouvelle vague ou une génération nouvelle de militantes, mais je vous cite, la poursuite des luttes des femmes du Sud global. Bonjour à vous, Françoise Vergès. Il y a beaucoup de paragraphes de votre texte qui s'attachent à réfléchir sur les mots que nous employons. Et peut-être une des premières réflexions, une des premières questions que vous vous êtes posées, c'est est-ce que je vais réutiliser ce mot de féminisme? Pourquoi avez-vous hésité?
Parce que je me disais pas féministe quand j'étais jeune. Le féminisme pour moi appartenait au Nord, c'est-à-dire à l'Occident. C'était associé à quelque chose de blanc bourgeois, enfin des bourgeoises. Et moi, je viens d'un monde où la question de la libération était une libération de toutes et de tous. Où, évidemment, la question de la domination masculine était une question, mais c'était lié à des tas d'autres formes de libération.
Donc, Réunion et Algérie.
Oui, la Réunion et l'Algérie, l'île de la Réunion et l'Algérie. Et j'ai grandi dans ces récits, des luttes de femmes dans le Sud. Et quand j'arrive en France, dans la deuxième moitié des années 70, je vais aller à des groupes de femmes, je vais ce qu'on appelait le mouvement de libération des femmes. Je participe à des manifestations, je suis assez enthousiasmée par ça, par ce mouvement. Mais je vois quand même que ça reste assez indifférent ou aveugle aux luttes qui continuent à se mener. Et donc féministe, je préférais libération des femmes. Je préférais dire je milite dans le mouvement de libération des femmes. J'aimais aussi ce terme de mouvement et de libération. Ces deux termes, je les aimais. C'est-à-dire d'être en mouvement vers la libération plutôt que féministe, qui me semblait quelque chose un peu fixé. Et je peux le redire aujourd'hui à cause de ces immenses mouvements qu'on voit de nouveau dans le Sud global et aussi en Europe.
Et pourtant, vous dites aujourd'hui, il s'agit de l'inscrire sur la couverture d'un livre pour le récupérer aux mains avides de la réaction. Ça veut dire quoi, Françoise Vergès?
J'ai été frappée par toutes ces dernières années, enfin on pourrait dire depuis 2010, quelque chose. Tout le monde peut se dire féministe, même les personnes d'extrême droite peuvent se dire féministe. C'est-à-dire alors que dans ces années 60-70, se dire féministe, c'était quand même une position. Et vous étiez renvoyée à être une femme hystérique, qui n'aime pas les hommes, enfin toute une série de choses. Et là, tout le monde pouvait se dire féministe. Donc je me dis, il y a quand même un dévoiement, même si je trouvais qu'il y avait eu d'énormes limites et impasses aux luttes des femmes, enfin au mouvement de libération des femmes en France dans les années 70, quand même de voir que des personnes d'extrême droite ou de droite se disaient féministes, quand même je me disais, il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis le fait qu'on était passé au nom des droits des femmes, une certaine compréhension des droits des femmes, qui les vidait complètement même de leur dimension réformiste, d'égalité de salaire ou de droits, et qui les transformer simplement en une rhétorique sur la question de l'égalité de genre, comme si, bon, avec une situation universelle, la même partout. Et l'émergence de mouvements, notamment dans le Sud, enfin de voir les femmes en Argentine, ou au Brésil, ou en Inde, ou en Afrique du Sud, et aussi depuis quelques années plutôt en Europe, je me suis dit, bon, bah tiens, féministe, il faut le reprendre. Il faut lui redonner la dimension qu'il a pu avoir, qu'il a eu d'ailleurs, qu'elle a continué à avoir dans le Sud et dans des, ou dans des minorités, ce qu'on appelait aussi le black feminism aux États-Unis dans les années 70. Il y a une possibilité, il faut le reprendre.
Le reprendre notamment pour, en tout cas dans votre esprit, s'inscrire aussi dans une histoire. Je le disais tout à l'heure, votre essai pour un, un féminisme décolonial invite à plonger dans différentes histoires. On y viendra. Le deuxième mot que vous attachez à décortiquer, notamment parce qu'il fait débat, c'est décolonial. Vous vous attachez à le situer dans le temps et dans l'histoire des idées. Comment, Françoise Vergès ?
Oui, vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a toute une confusion entre colonial, anticolonial, postcolonial, décolonial, et donc il faut préciser. Décolonial, c'est vraiment... Ce qui est intéressant, c'est de voir, parce que justement, on sort d'une temporalité trop précise. Vous voyez, bon, alors, il y a eu un empire colonial, puis il se termine, il y a des indépendances, et puis après, aujourd'hui, la République française continue à avoir des territoires dits d'outre-mer, mais bon, comment on appelle cette forme ? Mais de notre côté, c'est ce qu'on proposer des théoriciens, surtout d'Amérique du Sud, sur ce qu'ils appellent la colonialité. C'est-à-dire que tout est terminé en termes juridiques, en termes de droit, enfin, sous la loi, mais que des choses qui perdurent. Les choses qui perdurent et qui ont des conséquences enfin, vraiment tout à fait concrètes. C'est pas simplement de la représentation et de l'image. Et qui sont nées dans ce bouleversement du XVIe siècle où l'Europe a cherché à imposer sa pensée sur le reste du monde et à faire des autres civilisations des civilisations mineures. Et c'est ça la colonialité. C'est celle qui décide qu'il y a une manière d'être humain, une manière d'être citoyen, une manière d'être une femme, une manière d'être un homme, et qui l'impose, et le genre, ça sera ça, être un bon père, ça sera ça, être une bonne famille, ça sera ça, et cette colonialité se perdure. Donc décolonial, c'est s'attaquer à cette colonialité.
Pourquoi est-ce que vous commencez votre essai par la mention de ces femmes en lutte qu'on entendait à l'instant au micro d'Antoine Chao dans l'émission Comme un bruit qui court ? En quoi est-ce que ça inscrit votre lutte et votre réflexion à un endroit du travail, du droit du travail, de la lutte des classes, Françoise Vergès ?
Parce qu'en même temps, c'est le droit du travail, mais c'est aussi l'invisibilité. C'est-à-dire que sans le travail de ces femmes, chaque matin ou le soir, très tard, le monde ne fonctionnerait pas. Le studio où on est, on ne pourrait pas y rentrer.
Assurément.
Je veux dire, tous les gares dans lesquelles on circule. Je veux dire, le matin, quand on se lève, une grande partie de la population, et bouge, et circule, va au travail, ou emmène les enfants à l'école, dans les écoles, tout a été nettoyé par des femmes racisées, dans une totale invisibilité, et leur vie, je trouve, est exemplaire pour justement un féminisme décolonial, pour comprendre à la fois cette convergence entre la question de la migration, légale ou illégale, la question de l'âge, la féminisation d'un travail, les industries chimiques, ce que j'appelle l'économie de l'épuisement des corps, puisqu'elles disent qu'elles sont toutes extrêmement fatiguées, elles dorment peu, c'est un travail épuisant, c'est un travail dangereux pour leur santé. Et il me semblait que c'était un terrain de nouveau extrêmement intéressant pour voir comment des femmes ont été fabriquées à cet endroit-là, et totalement invisibilisées, au moment même où d'autres femmes gagnent en parole et en présence dans le monde, et peuvent revendiquer d'être importunées, ou d'avoir des égalités de salaire, mais que... Si vous voulez, c'est comme si on faisait une coupe transversale d'un bâtiment. Et alors, ces femmes-là qui parlent d'égalité de salaire seraient dans les étages pleins de soleil, avec des murs des fleurs et des oiseaux qui chantent. Et dans la cave, on verrait pas au troisième sous-sol, et qui viendraient la nuit nettoyer ces étages fleuris et ensoleillés, et qui sont des femmes racisées.
Alors pourquoi, avant qu'on revienne sur cet emploi d'un autre mot qui fait débat racisé, mais pourquoi, selon vous, elles sont invisibilisées, ces femmes-là, puisque votre essai commence sur une concordance des temps, à la fois cette lutte, cette grève qui est victorieuse et l'apparition d'une tribune dans un journal qui fait, à votre sens, beaucoup plus de bruit que la lutte pour ces droits du travail.
Le travail domestique, enfin ce qui dit domestique, le travail ménager, le travail que font les femmes, a toujours été invisibilisé. Ça a été une des grandes luttes en Europe, d'ailleurs en Occident, de faire reconnaître ce qui s'appelait la double journée de travail. Il y a des féministes qui ont même demandé le salaire ménager, que les femmes soient aussi payées pour ce travail de soins, pour les enfants, pour le mari, pour faire la cuisine. Mais là, ce travail, celui-là, il doit être invisibilisé parce que s'il était visible, on se rendrait compte que justement ce confort de ces femmes qui demandent le droit d'être importunées se fait sur le fait que si elles veulent être importunées dans le métro, ben le métro il a été nettoyé. elles vont pas d'être importunées dans les parkings, ils ont été nettoyés. Donc c'est cette invisibilisation nécessaire pour que le monde continue dans un confort, parce que si je le vois, je suis obligée de le voir, je suis obligée de le constater, je suis obligée quand même de me poser la question, sur quoi repose mon confort ? Sur le fait que ces femmes-là viennent dans la nuit ou le matin, ou qu'elles s'occupent de mes enfants, qu'elles vont les chercher à l'école, qu'elles font tout ça, et que, en fait, je peux parler de tout ça parce qu'il y a ça. Mais si je disais, je suis là, en fait, je peux arriver à 9h et travailler parce qu'il y a une femme qui s'occupe de mes enfants et une femme qui, elle, est séparée de ses propres enfants, qui va travailler tant d'heures, qui doit faire 1h30 de transport, sur quoi repose ma position et sur quoi repose mon discours? Sur cette invisibilisation. Donc, il vaut mieux que je ne le vois pas, même si c'est là sous mes yeux. Et le travail, alors, sinon, le travail dans les lieux publics, il a été... Il y a eu une forte pression pour qu'il soit fait, justement, tôt le matin ou tard le soir, ou quand on est sorti du train, qu'on ne voit pas, parce que qu'on ne voit pas les personnes. Parce que ça dérangeait les gens de voir. Parce que si vous êtes assis dans votre bureau et que vous voyez une femme autour de vous qui a 50 ans, vous en avez 30, qui ramasse tous les papiers, qui nettoie votre bureau... Vous êtes mis en position, quand même, vous comprenez quelque chose.
D'éventuellement la prendre en compte dans le combat que vous menez. Françoise Vergès, ça veut dire que pour vous, il y a au moins deux camps qui s'affrontent dans le féminisme. Un qui voudrait transformer le monde en profondeur jusqu'à ce que quoi, ces femmes ne travaillent plus à cet endroit-là où ils travaillent de manière visible. Et un autre qui tiendrait à ce que ce ne soit pas transformé et que, en tout cas, ce monde-là puisse continuer à tourner, quitte à ce qu'il exploite des femmes invisibilisées.
Non seulement les exploite, mais il tient un discours au nom des droits des femmes. Je veux dire, c'est au nom des droits des femmes, on attaque d'autres femmes, je pense. Alors, est-ce que ça serait rendu visible? Mais c'est pas nécessairement que ça serait rendu visible et mieux payé. Je pense qu'il faut que toute société doit se poser la question du soin, du nettoyage, en fait, de comment on prend soin d'une société.
Et de qui en prend soin?
Oui, qui en prend soin? Qui en prend soin et comment? Et je n'ai pas nécessairement toute la solution. Je pense que déjà, évidemment, toutes ces grèves sont faites pour qu'il y ait des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail, et ça, c'est formidable. Mais il y a toujours un moment, il y a bien un moment, il faudra qu'on se pose la question, si on est une vraie féministe, qu'on se pose la question de comment la société va prendre soin d'elle-même, donc comment on va faire travailler ça. Est-ce qu'il y a pas, il y a eu, c'est quand même une vieille question, hein, cette question de qui prend soin des enfants, qui fait la cuisine.
Mais manifestement, elle est encore très actuelle.
C'est vraiment très actuel. Et aussi la question de la protection qui va avec, quoi, qui protège les enfants, qui prend soin des personnes âgées. Et c'est une question sociale et économique et politique. C'est pas. Et alors, elle repose sur cette invisibilisation pour l'instant. Et
évidemment, je ne vous somme pas de trouver des solutions pour nous aujourd'hui à 13h09 sur France Culture. Cependant, on peut peut-être commenter des choix politiques. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait un choix politique qui viserait à revaloriser ces professions, à faire en sorte qu'elles soient mieux payées, à faire en sorte que les temps de travail soient moins découpés, et un autre choix politique qui viserait à ce qu'on éduque les petites filles à ne pas seulement jouer avec des poupées et avec des petits, mais aussi avec des petits camions? C'est-à-dire qu'il y aurait deux possibilités aussi de faire de la politique qui trancherait.
Je pense que déjà, évidemment, que les conditions de travail de ces femmes soient améliorées, que leur salaire soit bien plus important, que soit reconnue l'importance de ce rôle dans le fonctionnement de la société, c'est déjà le minimum. Que finalement que ce soit peut-être plus visible, ben, si ça dérange un peu, ben, tant pis, hein, si ça dérange les clients de l'hôtel. C'est aussi une industrie où il y a énormément de harcèlement sexuel, c'est connu, même l'industrie le reconnaît. Donc ça veut poser aussi la question. On a eu un cas il y a quelques années d'un grand dirigeant du Fonds monétaire international qui s'est retrouvé qui a été quand même reconnu de viol sur une femme de ménage. Et c'est ces questions-là. C'est ces questions de mettre des femmes dans une situation de vulnérabilité extrême. Sur lesquelles et qu'on rend invisible. Donc ça serait, oui, ça serait d'une protection de ces femmes, enfin qu'elles puissent se protéger et qu'elles aient des meilleures conditions de travail et de vie, oui. Que dans les témoignages que je cite, que partout dans le monde, ces femmes dorment très peu parce qu'il faut se rendre à leur travail très tôt, ben c'est quand même une question. Elles ont droit au repos. elles ont droit à des nuits de sommeil comme toutes les autres, comme d'autres femmes.
On continue notre petit point lexique avec vous, Françoise Vergès. Donc, utilisation du mot féminisme, utilisation du mot décolonial et à l'instant, l'utilisation du mot racialisé. Cela vous vaut plusieurs accusations, et pas qu'à vous, sur le fait de réintroduire le concept de race, vous en parlez, le fait de pouvoir tendre l'épaule à l'accusation de racisme anti-blanc. Comment parler de ces choses-là calmement, Françoise Vergès ?
Alors, parfois en partant des faits, mais ce que j'ai remarqué souvent dans les débats, c'est que j'ai beau apporter des faits venant du défenseur des droits, du CSA, du ministère, enfin je veux dire donc d'instances gouvernementales, pas de la petite association du coin ou des gauchistes du coin, quoi, comme on dit. Et ça ne fonctionne pas toujours. Donc même les faits ne
suffisent
pas. Peut-être
essayer de le définir. Qu'est-ce qu'on entend par racialiser ou racialisation?
Je pense, oui, alors race, bon, alors on sait qu'en France, race renvoie trop à la biologie, donc on peut pas le dire. Alors qu'en anglais, on peut dire race, les gens comprennent. Racisation, donc ça a été proposé par Colette Guillaume, une sociologue, et par d'autres, c'est-à-dire que ça s'appuie beaucoup plus sur le processus par lequel des personnes, à cause de la couleur de leur peau, de leur origine, de leur religion, de leur nom, vont être discriminées, mais concrètement et stigmatisées. Donc, dans l'emploi, la promotion, l'éducation, la santé, enfin dans tous les champs de la vie quotidienne des êtres humains, des citoyens. Et donc racisation montre ça et montre aussi, si vous voulez, que des groupes peuvent se mettre à être racisés qu'ils ne l'étaient pas jusqu'à présent, comme on l'a vu pour les Roms en France, qui ont été vraiment tout d'un coup stigmatisés et racisés et ont servi aussi de bouc émissaire. Donc ces racisations montrent ça, et raciser c'est aussi, et puis c'est se reconnaître en tant que racisé, c'est-à-dire de mener un combat à partir de cette réalité.
Vous, par exemple, vous dites dans votre essai que très difficile pour une femme blanche d'entendre que il faut qu'elle ait conscience de la place depuis laquelle elle parle, à savoir de sa position de femme blanche et de ce que ça suppose comme position au sein de la société.
Oui, parce que racisation, ça commence par la race blanche. C'est-à-dire la race blanche, elle a été inventée par des blancs. Je veux dire, personne ne parlait de ça.
Comme une construction sociale, on
comme une construction sociale. Je veux dire, il y a des textes où disent nous de la race blanche, nous sommes la race blanche. Je veux dire, c'est pas nous qui le disons, les racisés qui le disons, c'est les blancs eux-mêmes se sont nommés comme blancs blanches et appartenant à la race blanche. Ça s'est inscrit, ça, et même dans ce qu'on a appelé la science des races à la fin du 19e et même jusqu'au début du 20e et très tard, puisqu'on voit, on la voit ressurgir avec les théories nazies, etc. Donc on est la race. Ça existe comme fonctionnement dans la société, ou ce que Étienne Balibert a appelé le racisme sans race, c'est-à-dire vous ne croyez pas à son existence biologique, mais vous le pratiquez, vous le faites, et parce que c'est structurellement profond, ça a pénétré. Comment imaginer que, au plus de 5 siècles d'histoire coloniale, esclavagiste et post-esclavagiste, n'ait pas affecté la société française en profondeur? Et pas simplement dans l'image, dans ses structures, dans sa manière de penser. La France s'est construite, la République s'est construite aussi sur cette image de ce grand empire colonial qu'elle possédait, c'est-à-dire de cette grandeur qui lui a donné d'ailleurs la place dans le monde aujourd'hui. La France, sinon, c'est quand même un tout petit pays. Et elle a cette place dans les instances internationales. Ça s'appuie sur ce passé, cette histoire. Ça s'appuie pas sur une particulière, comment dire, plus grande compétence que n'importe quel autre peuple.
Notamment en termes de droits des femmes, mais on va y revenir.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, fameux esclaves. Et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, debout, fameuses esclaves. Debout, debout, debout.
Un extrait de cet hymne fameux du mouvement des libérations des femmes, pour la libération des femmes, Françoise Vergès, vous en faites une analyse là aussi textuelle et vous vous arrêtez à cette phrase « Nous qui sommes sans passé ». Et vous écrivez dans votre essai « Un féminisme décolonial » « Non, nous ne sommes pas sans passé, il est important de dire que nous avons un passé et que nous nous inscrivons dans une histoire. Pourquoi est-ce important et pourquoi est-ce que cela fait partie du combat que vous souhaitez mener ?»
Alors je comprends cette phrase « nous qui sommes sans passé », c'était, ça s'appuyait sur cette question d'invisibilisation de ce qu'avait été le rôle des femmes dans l'histoire, mais il y a aussi, bon, en tout cas pour les femmes du Sud, de dire il y a une double invisibilité, d'affirmer « nous avons un passé ». Nous ne sommes pas sans passé. Nous avons un passé. Et parce que ce passé n'est pas simplement face au silence qui a été construit, mais pour nous-mêmes, pour se construire comme autre, à partir d'une tradition et d'une généalogie. La question de se réapproprier une histoire, de la réécrire, de la fouiller, de voir aussi dans ses impasses aussi et dans ses limites, c'est de se redonner aussi d'autres imaginations, d'autres espaces d'imaginaire.
Et d'autres figures hein, dont vous dites qu'elles ont été rayées de la carte parce que elles ne participaient pas à une histoire majoritaire et dominante que l'on voulait écrire.
Oui, jusqu'à présent, même dans le domaine français de l'histoire française, au XVIIIe siècle, on commence tout le temps avec Olympe de Gouges et on ne parle pas qu'au même moment, il y a des femmes qui sont dans la Révolution haïtienne et qui mènent des troupes, qui sont à la tête de troupes. C'est-à-dire, c'est quand même des figures assez extraordinaires. Totalement extraordinaire, puisqu'elle lutte à la fois contre l'esclavage, contre le racisme et contre ce moment colonial, puisque c'est pour construire la République d'Haïti. Et du coup, c'est vraiment d'étendre la temporalité, l'espace dans lequel on circule, quoi, de sortir d'un espace en fait assez étroit, de très étroit, temporellement, spatialement, et qui appauvrit l'histoire et qui en appauvrit aussi la dimension radicale, la dimension de possibilité aussi, de possibilité.
Quand vous dites qu'après la chute du mur, une manière justement de s'ancrer dans cette histoire-là, de vouloir continuer d'en faire le ferment d'une action présente, a été caricaturée, parfois ridiculisée, c'est encore la situation dans laquelle vous vous trouvez avec d'autres, Françoise Vergès ?
Oui, un peu, on se trouve chaque fois, je ne sais pas, c'est comme vous le rappeliez, dire racisé, alors on est traité de racialiste. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que vous avez commencé par parler de ce travail, puis on a entendu l'extrait, c'est-à-dire que ça ne part jamais sur des faits, c'est-à-dire de dire ben, finalement c'est quand même normal qu'il y ait des femmes qui fassent le travail de nettoyage la nuit, et ben c'est comme ça, et puis voilà, nous, vous voyez ces féministes qui nous disent ça. Mais non, c'est de la rhétorique, quoi. C'est de la pure rhétorique, c'est-à-dire ça ne part pas de la réalité. La réalité des femmes, de centaines de milliers de femmes aujourd'hui, c'est une vie précaire, fragilisée, exploitée. Donc de nous faire, je sais pas, des grands discours sur l'égalité des femmes. Mais oui, bien sûr, mais partons de la réalité.
On vous oppose que c'est un féminisme de niche et que c'est complètement illusoire ou idéaliste de considérer que, en gros, les destins vont se mêler pour des luttes communes, que des femmes blanches et bourgeoises vont rejoindre dans la lutte des femmes racisées qui travaillent de 5 à 7 dans des grands hôtels de luxe et que c'est parfaitement idéaliste, vous répondez quoi, Françoise Vergès ?
Eh bien, c'est peut-être idéaliste, mais celles qui ne le rejoindront pas, ces féministes qui ne veulent pas rejoindre ces luttes, pour moi, c'est le passé. Le présent, aujourd'hui, c'est celui de toutes ces femmes qu'on voit, je veux dire, quand on a vu en janvier entre 3 et 5 millions de femmes au Kerala faire un mur humain parce que pour lutter contre l'idéologie de la pureté et de l'impureté, quand on voit le million de femmes à Buenos Aires après le meurtre de Marielle Franco, quand on voit les millions de femmes à Buenos Aires pour lutter contre le féminicide et pour les droits des peuples autochtones à la terre, je me dis c'est le passé.
Est-ce qu'il y a des luttes qui seraient des luttes unitaires, claires et nettes, sur lesquelles pourraient aujourd'hui s'unir toutes les femmes, sans division ?
Je pense que pour ces femmes blanches dont vous parlez, ça serait de se rendre compte qu'elles sont blanches, qu'elles ont été faites blanches. C'est pas que elles, mais qu'elles ont été faites. Et donc, comment se défaire, comment se déblanchir, si je puis dire. Et c'est pas de tomber dans l'essentialisation, c'est pas de dire toutes les femmes qui sont noires ou arabes seraient pures et formidables, extraordinaires. C'est de voir dans les cases, dans les catégories dans lesquelles on était mises et qui, pour les femmes blanches, qui ont construit des privilèges dans la vie.
Mais ensuite, concrètement, pour quelle lutte, Françoise Vergès ?
Eh ben, pour quelle lutte, c'est déjà se déblanchir, se décoloniser. La décolonisation, pour moi, ne concerne pas simplement les personnes qui ont été colonisées ou qui seraient liées à cette histoire, par leurs ancêtres ou leurs parents, grands-parents. La société française doit se décoloniser, elle doit se déracialiser. Sinon, il n'y aura pas de possibilité de lutte commune. Elle doit comprendre, quand je cite Aimé Césaire sur cette histoire de choc en retour, c'est-à-dire qu'on ne peut pas esclavagiser, coloniser, sans que ça vous revienne chez vous, dans le pays qui a colonisé, et que ça contamine même vos théories d'émancipation, de libération. Tant qu'on n'aura pas compris cela, il n'y a pas de possibilité d'alliance. Il faut, c'est un travail, mais c'est un travail en commun, parce que la décolonisation, elle est aussi pour les racisés. Je veux dire, il y a pas des personnes pures d'un côté et des personnes impures, mais il y a quand même des inégalités, des asymétries. Toutes les études sociologiques, économiques le montrent, que les personnes racisées sont les plus discriminées et dans la hiérarchie sociale les moins favorisées.
L'objet du délit, le foulard, plus précisément le zif marocain que portent Fatima et Leïla selon leurs convictions musulmanes.
Je crains de personne, sauf le Dieu. Je porterai toujours mon foulard jusqu'à ma mort.
Fatima et Leïla ne sont pas exclues du collège Georges Avez, mais l'accès leur en est refusé tant qu'elles porteront le foulard pendant les cours. Principe de laïcité oblige.
Marianne, le symbole de la République, elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. C'est ça Marianne. C'est ça ce que nous devons nous toujours porter.
Lui, il considère, comme je le considère, oui, que les islamistes, tels que cette femme voilée intégralement sur le territoire national, est comparable avec les nazis.
Est-ce que moi je suis heureux quand je vois une femme voilée? Parfois, ça n'est pas...
Quand vous croisez une femme voilée,
mais
quel est votre sentiment?
Je la respecte. Mais je veux être sûr d'une chose, c'est que c'est son choix. Mais pourquoi cela nous insécurise, ce voile? C'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays, c'est-à-dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes.
Ce que représente ce voile pour les femmes, non, ce n'est pas un phénomène de mode, non, ce n'est pas une couleur qu'on porte, non, c'est un asservissement de la femme.
La marque française Decathlon est sous le feu des critiques pour avoir proposé à la vente le hijab pour le sport. Plusieurs responsables politiques, associations féministes ont dénoncé cette soumission à la mode islamique. Qu'est-ce qui vous dérange ?
Bah, parce que le sport, n'en déplaise aux gens de Decathlon, ce n'est pas que du business, ce n'est pas qu'un loisir. Le sport, c'est avant tout des valeurs.
Est-ce que c'est légal ? Oui, c'est légal. Est-ce que ça me choque ? Oui, ça me choque.
Qu'est-ce qui vous choque ? Qu'ils aient renoncé ou qu'ils aient essayé de le vendre ?
Bah, qu'on fasse de l'argent surtout, comme disait le président du Sénat, je trouve que Gérard Larcher a eu la bonne formule. Oui, mais je préfère la liberté des femmes à la liberté de commerce.
Oui, mais...
Un montage de notre réalisatrice Minéna Elig, qui reprend plusieurs occurrences d'actualité liées au voile. Vous aussi, vous le faites, ce travail-là, Françoise Vergès, et vous remontez non seulement en 1989, lors de la parution d'une tribune, mais aussi au texte de Frantz Fanon, qui, par exemple, dans ce recueil de l'enceinte de la Révolution, pardon, cite la manière dont une certaine classe politique française de métropole a été obsédée par cette question du voile des femmes, notamment en Algérie. Alors, un petit état des lieux du problème, Françoise Vergès.
Alors, le voile, oui, au moment de la guerre en Algérie, on le sait, l'armée française voudrait intervenir, c'est-à-dire se poser comme modernisatrice. Ce que Frantz Fanon dit, c'est que la rhétorique coloniale, la politique coloniale, c'est « ayez les femmes, le reste suivra ». C'est-à-dire, dites aux femmes que vous colonisez, qu'en fait, vous leur apportez la modernité, la liberté et l'autonomie. Ce qui aujourd'hui est appelé par la sociologue Sarah Faris le fémo-nationalisme, c'est-à-dire les gouvernements occidentaux qui disent « on vous libère ». L'obsession sur le voile est pour moi stupéfiante. Pour moi, vous pouvez me rappeler, j'ai grandi à l'île de la Réunion, je passais devant une médersa quand j'allais au lycée, il y avait des jeunes femmes qui avaient porté le voile sur la tête, ça ne m'a jamais paru, particulièrement j'avais des petites copines qui étaient, bon, pas musulmanes, ça ne m'a jamais paru un problème du tout. On partageait les mêmes questions que partagent des petites filles de 12 ans. Et quand je suis arrivée en France et que j'ai vu cette incroyable dans les années, donc à la fin des années 80, des années 2000, ça m'a semblé totalement incroyable. Et comment ce discours se fait sur que le voile serait immédiatement le signe de la soumission des femmes aux pères et aux frères? On pourrait parler de tas de manières de s'habiller qui seraient aussi une soumission à des dictates. Je veux dire, le corps de la
donc
femme...
Donc beaucoup considèrent que ce n'est pas la même chose. On ne va pas revenir sur ces débats-là, mais en gros, la mini-jupe et le voile, oui. C'est pas pareil.
Mais la question du voile, c'est vraiment le refus d'accepter l'islam comme une réalité et les femmes musulmanes comme une réalité. En France, le fait que ces femmes, ces jeunes filles voilées, elles font des études, elles veulent être professionnelles, elles veulent s'inscrire dans cette société entièrement. Je veux dire, elles veulent y contribuer, elles veulent y participer. Il y a quand même quelque chose qui est particulièrement, enfin vraiment, une obsession autour de l'islam qui quand même rend absolument réelle l'accusation d'islamophobie. C'est-à-dire, de voir la question, comme je raconte, cette espèce de folie autour du burkini, autour du voile, chaque fois.
Mais d'aucuns vous rétorqueront, Françoise Vergès, que, en gros, l'autre camp, puisque c'est aussi un mot que vous utilisez, va brandir la carte de l'islamophobie pour ne pas regarder en face ce que le voile est comme signe de soumission de la femme. Donc, en fait, les arguments se renvoient comme ça la balle. Et au fait, est-ce qu'on avance sur le terrain de la libération?
Il y a des femmes musulmanes, on le sait, qui sont voilées et qui parlent de ce qui se passe, qui critiquent le patriarcat, qui critiquent la manière dont, par exemple, leur religion, la religion auquel elles adhèrent, s'est dévoyée pour renforcer le pouvoir des hommes, des pères. Je veux dire, elles ne sont pas quand même totalement idiotes. Il y a des féministes à l'intérieur de l'islam. Je ne vois pas pourquoi on les empêche. Il y a bien eu des féministes à l'intérieur du christianisme.
Parce qu'on considère, quand ce camp-là empêche, ne serait-ce qu'on puisse écrire le mot féministe et femme voilée dans un même
morceau de texte. Mais on n'a pas trouvé que l'Église, je veux dire que le fait que quand le féminisme s'est attaqué à l'Église, on ne s'est pas mise à insulter les religieuses, les femmes qui choisissent de ne pas se marier, de rentrer dans un ordre et qui choisissent de s'habiller ainsi. On ne trouve et qui ont certaines des théologiennes du féminisme.
Et comment vous entendez, Françoise Vergès, le discours qui consiste à dire ici en France, les femmes et les hommes sont à égalité, il faut lutter pour que cela demeure.
Oui, bon, alors d'abord, je ricane, parce que les femmes et les hommes ne sont pas à égalité en France. C'est quand même un pays où il y a, toutes les trois jours, il y a une femme qui est assassinée par son compagnon, un proche. Il y a une inégalité salariale absolument terrible. 80% des travailleurs à temps partiel sont des travailleuses à temps partiel, sont des femmes.
Donc c'est un argument fallacieux?
Bien sûr que c'est fallacieux. C'est-à-dire, c'est de croire qu'il y aurait une terre où il y aurait seraient nés naturellement les droits des femmes. Mais ces droits ont été discutés. Je veux dire, il y avait des sociétés. Quand on lit, il faut lire un peu les anthropologues. Il faut sortir un petit peu de ces petites cases. Des anthropologues qui vous démontrent que le pouvoir a été exercé par des femmes dans d'autres sociétés. Autrement, cette idée du genre, si vous voulez, de deux genres, il y a deux genres qui s'opposent, les hommes et les femmes, c'est une invention européenne. Ça n'existe pas. Ce n'était pas nécessairement comme ça ailleurs. Cette obsession sur l'habit, c'est une obsession coloniale. Il a fallu habiller les femmes en Tahiti et dans les terres parce qu'elles étaient nues. Il a fallu habiller les femmes africaines parce que c'était comme ça, il fallait habiller. Enfin, il n'y a pas une manière simplement de s'habiller dans le monde et une manière de se considérer comme femme ou homme. C'est quand même stupéfiant, cette histoire, de penser qu'il y a une universalité. Alors, on va me dire, oui, mais c'est en France. Alors, d'abord, là-bas, vous pouvez vous voiler, mais en France. Enfin, la France, quand même, elle n'est pas constituée que de personnes chrétiennes et blanches.
Un féminisme décolonial s'est publié aux éditions de La Fabrique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, François Vergès.
Merci, merci.
Sheep, don't you know the road?
Yes, Lord, I know the road.
Sheep, don't you know the road?
Yes, Lord, I know the road.
Don't you know the road by the playing of the song?
Yes, Lord, I know the road.
Don't you know the road by the singing of the song?
Yes.
Un très grand merci à l'équipe de la Grande Table pour leur accueil et pour leur sacré travail. Maya Neskovic, Antoine Suzarelli, Mathilde Tonfourcade, Oriane Delacroix, Laura Dutèche-Pérez, Henri Leblanc et Anne Toscane-Juedès. Ça fait du monde. À la réalisation, Milena Elig et au son, aujourd'hui, Emmanuel Morse d'un camp. Lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Olivia Gesbert au micro de la Grande Table et moi, de retour à 21h.